Décryptage.
Nathanaël Vitran.
PMA, trois petites lettres qui font débat. La procréation médicalement assistée n'a pourtant plus rien d'exceptionnel ni d'effrayant. D'après l'Institut d'études démographiques, un enfant sur 30 aujourd'hui en France voit le jour grâce à la PMA. C'est un par classe. Aujourd'hui, la PMA n'est ouverte qu'aux seuls couples hétérosexuels en cas de stérilité de l'un ou de l'autre. Pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron, sur RMC, s'était prononcé pour son élargissement.
Je suis favorable à ce que on étende la PMA aux femmes seules et aux couples femmes de même sexe, parce que je pense que c'est une innovation médicale aujourd'hui encadrée, qu'il n'y a pas de raison d'avoir cette discrimination. J'attendrai que la Commission nationale d'éthique rende l'avis qui lui est demandé, ça doit être juste après l'élection, pour prendre la décision en faisant mûrir ce débat éthique et social, parce que je pense que ce sont des sujets graves qui ne se prennent pas à l'emporte-pièce.
La première étape de la consultation des Français est terminée. Elle montre que le sujet divise encore le pays. Mais de quoi les opposants à la PMA pour toutes ont-ils peur exactement? On en parle dans le décryptage. Soyez les bienvenus. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Laurence Brunet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes juriste, spécialiste en droit de la famille et en bioéthique, chercheur à Paris 1. Également avec nous, Jean-Philippe Wolff, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chef du service de la biologie de la reproduction, responsable assistance médicale à la procréation au sein de l'hôpital Cochin à Paris et également professeur à l'université Paris 5. Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous. D'abord, on va peut-être clarifier les termes de la discussion. Jean-Philippe Wolff, le terme de procréation médicalement assistée recouvre des pratiques et des réalités très diverses aujourd'hui.
Alors d'abord, le terme consacré n'est pas procréation médicalement assistée, mais c'est assistance médicale à la procréation. Parce que l'assistance médicale a lieu tout le temps, malheureusement la procréation n'est pas complètement garantie au bout du chemin. Alors les diverses manières de faire de l'assistance médicale à la procréation, il y a un couple infertile, à qui on vient en aide, alors c'est soit l'homme, soit c'est la femme qui pose un problème, parfois, et assez fréquemment les deux, notamment souvent à cause de l'âge de la femme. Et sinon, eh bien, on peut avoir recours à des spermes de donneurs, à des ovules de donneuses, si l'un ou l'autre des membres du couple est complètement déficient, bien sûr. Et puis, il y a des choses dans l'assistance médicale à la procréation un petit peu plus large. On peut dire la préservation de la fertilité, par exemple, pour les femmes ou les hommes qui se trouveraient avoir un cancer ou une maladie grave, disons, qui nécessite un traitement qui risque de les rendre stériles. Et puis, il y a des choses qui sont interdites en France, mais qui existent par ailleurs dans le monde, qui est la grossesse pour autrui, par exemple. Alors là, c'est bien sûr des hommes qui n'ont pas d'utérus, qui se trouvent dans l'obligation, s'ils veulent pouvoir avoir un enfant, de pouvoir louer, enfin je sais pas quel terme il faut prendre, mais qui ont besoin d'un utérus quelque part pour porter un enfant. Quoi.
Laurence Brunet, est-ce que cela représente aussi des situations très diverses sur le plan juridique?
À la fois oui et non sur le plan juridique. Jusqu'à maintenant, le droit exigeait pour pouvoir bénéficier des techniques que Monsieur Wolff a exposées, il fallait être un homme et une femme. Donc le droit exigeait que le couple soit un couple hétérosexuel. Il n'y avait pas d'autres conditions concernant le mariage ou le fait de vivre en concubinage, d'être paxé. Sur la conjugalité, il n'y avait pas d'exigence. Mais ce qui était clair, c'est qu'il fallait absolument être un couple.
Mais ce que nous explique Jean-Philippe Wolff, c'est qu'il y a des techniques qui sont interdites en France, d'autres qui ne le sont pas. La GPA, la gestation pour autrui,
don est interdit aussi en France. La GPA est interdite en France. On a un cadre assez restrictif par rapport à d'autres pays.
Qu'est-ce que c'est le double don? C'est quand on fait à la fois un don d'utérus et de sperme.
Comme le disait M. Wolff, quelquefois la stérilité affecte les deux membres du couple et parfois il faut recourir à un don de sperme et un don d'ovocytes. Ça, par exemple, c'est pas possible en France, n'est possible pour des gens qui sont affectés d'une double stérilité qu'éventuellement le recours à un accueil d'embryon. Un embryon fait donc dans le cadre d'un autre projet parental que celui du couple qui va accueillir cet embryon.
Alors Emmanuel Macron avait fixé le calendrier, on l'a entendu. Consultation des Français courant de l'année 2018, rapport de synthèse du Comité National d'Éthique, le CCNE, projet de loi à la rentrée, discussion à l'Assemblée et au Sénat pour le début de l'année 2019. On en est aujourd'hui à la deuxième étape. Ce que montre le rapport de la CCNE, c'est qu'il n'y a pas de consensus sur le sujet. En tout cas, c'est ce que dit son président. Notre journaliste Anna Piekarek s'était rendue à l'une des consultations qu'avait organisé ce comité. Voilà ce qu'on pouvait par exemple y entendre.
Il me semble important de dire que ces familles, elles existent. Ces enfants, ils existent. Élevés par deux hommes ou élevés par deux femmes. Moi, je vous invite fortement à aller voir toutes ces familles. Parce que ça me semble aussi intéressant d'entendre ce que les familles peuvent dire de leur vécu, de leur parcours et de toutes les questions qu'elles se sont posées par rapport à ce désir d'enfant et ce désir de parentalité.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est la question économique. Est-ce qu'on ne restaure pas une égalité d'accès ? Parce que quand vous avez de l'argent, vous pouvez aller en Belgique, en Espagne, mais ceux qui ne peuvent pas, donc on retombe sur une question d'inégalité et de classe sociale. Peut-être que des couples qui n'ont pas les moyens pour le moment d'avoir un accès au désir d'enfant comme les autres, y auront le droit.
Voilà, ça ce sont les pour, les contre, on les a surtout entendus sur Internet, on va y revenir tout à l'heure. D'abord sur le procédé, c'est important ce travail de consultation sur ce sujet, Jean-Philippe Wolff.
Alors écoutez, moi j'ai lu en diagonale le rapport du CCNE à la page 37. Il est marqué dans la recherche sur l'embryon qu'il y a des très 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 grandes réticences, notamment à former des embryons avec des gamètes. Or vous, moi, Laurence Brunet, ceux qui sont dans cette salle et ceux qui sont en dehors, ont tous été formés avec un embryon qui a été fait avec des gamètes. Donc ça me laisse un petit peu perplexe, parce que depuis la nuit des temps, l'homme se reproduit avec la fusion de deux gamètes.
Qu'est-ce que ça veut dire précisément pour nous?
Mais des gamètes, c'est un spermatozoïde et un ovocyte, excusez-moi, c'est un spermatozoïde et un ovocyte. Alors il y a dire dans le rapport du CCNE qu'il y a une grande réticence à la formation d'embryons avec deux gamètes, mon Dieu, l'espèce humaine se reproduit depuis des millénaires avec la fusion de gamètes. Donc c'est dire, à mon avis, la méconnaissance et la peu près qu'il y a dans ces données. Mais, si vous permettez d'ajouter quelque chose, nous avons affaire à des groupes de pression extrêmement organisés qui me font penser aux mêmes personnes qui ont voulu assassiner Galilée il y a 300 et quelques années parce qu'ils disaient que la Terre tournait. Vous savez qu'il y a 300 ans, on a voulu le brûler parce qu'ils disaient que la Terre tournait. Donc c'est de l'obscurantisme le plus total. Ils sont très très organisés. Et comme nous le rapportaient des gens qui font partie du Comité National d'Éthique et qui ont auditionné ces gens-là, ils viennent vous dire, vous savez, nous, on est 1 million de personnes dans la rue. Hein. C'est-à-dire qu'ils viennent pas avec...
C'est la manif pour tous. Hein.
C'est la manif pour tous, vous avez compris. Ils viennent pas avec des sentiments altruistes, de bonne volonté, non. Ils viennent et ils nous tirent en arrière. La France, ils nous tirent en arrière dans l'obscurantisme le plus total. La France disparaît de tous les congrès internationaux sur la biologie de la reproduction parce que nous ne faisons pas de recherche sur l'embryon, parce que pour avoir une autorisation de recherche sur l'embryon, il faut mieux avoir un cabinet d'avocats avec soi, parce que sinon c'est strictement interdit. Donc je pense que c'est... Nous avons affaire à des groupes extrêmement organisés, mais qui représentent l'obscurantisme le plus total et qu'il nous faut aller de l'avant, quoi.
Laurence Brunet, sur cette consultation-là, on a quand même entendu des gens qui ont pu exprimer leur avis, un avis favorable, en l'occurrence, à l'extension de la PMA pour toutes. Que pensez-vous de ce procédé ?
Alors, ce procédé, il est intéressant, mais il a ses limites, parce que justement, on participait à la fois à la consultation en ligne et à ces auditions, à ces conférences. On participait des Français, mais ils n'étaient pas représentatifs de la population française. C'est-à-dire que le CCNE, le Comité Conseil National d'Éthique, n'a pas vérifié qu'il y avait autant de pour et de contre. Donc, François Delfrécy, le président du CCNE, l'a dit,
il y a eu
beaucoup plus de contre qui ont participé, je souscris tout à fait à ce qu'a dit Jean-Philippe Wolff, il y a eu beaucoup plus de contre qui se sont mobilisés parce qu'ils étaient organisés pour se mobiliser, pour essayer d'écarter toute évolution dans un sens libéral de la loi sur la recherche sur l'embryon ou de la loi sur l'ouverture de la procréation médicale assistée. Donc, il faut que les biais qui sont inhérents à cette consultation, j'espère que à la fois l'exécutif, les parlementaires et d'abord le CCNE en tiendront compte, parce que une consultation, il faut d'abord qu'elle soit représentative pour avoir une valeur.
On va revenir, mais un peu plus tard, sur l'opposition de la Manif pour tous tout à l'heure. Avant ça, sur les arguments qu'on vient d'entendre, les arguments qui sont plutôt pour. Premièrement, le fait que ces familles existent déjà aujourd'hui, qu'il faudrait donc commencer par les écouter, Laurence Brunet.
Ah bah oui, elles existent, c'est très important. Et là, le juriste est vraiment aux premières loges, parce que depuis la loi de 2013, qui a permis aux couples de même sexe de se marier, les couples ont pu, par un effet réflexe de l'adoption, du mariage, adopter les enfants. Or, dans l'esprit du législateur, en 2013, il était clair que les gens pourraient aller à l'étranger, les femmes pourraient aller à l'étranger demander un don de gamètes et qu'ensuite, on viendrait en quelque sorte régulariser ces familles via le biais de ce qu'on appelle l'adoption intrafamiliale. Donc non seulement ces familles existent, mais le droit a en fait donné son onction à ces familles. Et donc aujourd'hui,
c'est-à-dire qu'il y a reconnaissance de la parentalité voilà.
De la parentalité, de la parenté. Donc la femme qui a recouru à un don de sperme à l'étranger, elle rentre en France, elle accouche. Du point de vue du droit, c'est la mère légale. Ensuite, sa femme, puisqu'il faut être marié pour pouvoir ensuite adopter, sa femme, donc la conjointe, va demander une adoption de l'enfant qui est né de sa conjointe. Cette adoption, depuis la Cour de cassation est venue le valider, cette adoption est aujourd'hui tout à fait possible. Les juges ont même le devoir de la prononcer si cette adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Donc ces familles existaient dans les faits avant la loi de 2013 et depuis la loi de 2013, elles existent au regard du droit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les livrets de famille, ces enfants sont rattachés à leurs deux mères. Donc ça sert à rien de dire que ça sert à rien de se battre contre cette idée-là. Ces familles existent et elles sont régularisées au regard du droit. Donc maintenant, comme le disait, je crois, le dernier intervenant, toute la question est de savoir si on laisse, en quelque sorte, les frais de recours à la procréation médicale assistée, le stress que représente le fait d'aller à l'étranger, comme l'Académie de médecine l'a souligné, toutes ces questions plutôt de santé publique, si on les laisse à la charge des couples de femmes, ou si la société française décide de l'ouvrir et puis ensuite, la grande question est celle qui est, est-ce qu'on évolue dans l'établissement de la filiation de la seconde maman, de la seconde mère et est-ce qu'on va plus loin
sans
que l'adoption
besoin d'adoption.
Voilà, s'il n'y a pas s'il n'y a pas un établissement direct, comme pour la mère qui a accouché, celle qui serait en quelque sorte le coparent pourrait directement être reconnue comme la seconde mère.
Jean-Philippe Wolf, sur cet aspect de pouvoir recourir à la comment vous m'avez dit tout à l'heure,
l'assistance médicale à la procréation.
Pas exactement, et non pas l'inverse. Est-ce que le fait d'ouvrir ces techniques à toutes les femmes, est-ce que les hôpitaux français, et en particulier les services spécialisés comme le vôtre, y sont prêts?
Alors, je voudrais d'abord vous dire quelque chose du point de vue éthique pour ce qui nous concerne nous-mêmes. Les gens qui viennent nous voir, ou qui viennent pas nous voir, mais des gens qui veulent un bébé, sont des gens qui sont bons. Je veux dire, c'est de l'altruisme, c'est de vouloir partager, c'est de pouvoir éduquer, c'est de pouvoir venir en aide à un enfant, c'est pour l'entourer d'un amour, etc. Ce sont pas des malfrats. C'est pas des gangsters qui viennent à nous. Ou les gens qui demandent d'avoir l'assistance médicale à la procréation, de pouvoir adopter. Donc, sont des gens que nous accueillons de manière très favorable, bien évidemment. Nous mettons deux conditions, toutefois qui sont des conditions éthiques qui sont habituellement utilisées. La première condition, c'est que l'enfant est un avenir qui est un avenir qui soit en bonne santé, qui puisse venir en bonne santé, qui soit venir dans une famille ou dans un réseau aimant et soutenant. La deuxième chose, c'est que quelle que soit l'assistance médicale à la procréation que nous sommes amenés à faire, il ne faut que ça nuise à personne. Notamment déjà, donc pas à l'enfant, bien évidemment, lui-même, et ni c'est la raison pour laquelle nous, on est opposé au GPA, par exemple, où on pense que c'est pas à une femme dont c'est pas le projet parental de porter la grossesse pour quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, ceci étant dit, donc, les gens qui viendront à nous, si la loi, bien sûr, nous appliquerons la loi, bien évidemment, on n'a pas la possibilité ni de se mettre hors la loi, ça c'est absolument clair. Mais les gens qui viendront à nous seront bien sûr accueillis avec beaucoup de bienveillance, comme nous accueillons tous les patients qui viennent chez nous voir. Savoir, est-ce que c'est possible? Alors, il y a des gens qui nous disent « Oh, vous allez écrouler, il va y avoir des files d'attente de lesbiennes en bas de cochin vont demander des tonnes et des litres de sperme, etc. » Non. Il faut être un peu raisonnable.
On a une idée des chiffres de ce qu'a pour
oui, alors on a une idée des chiffres. Alors d'abord, la première chose, c'est à Cochin, il n'y a pas de délai d'attente pour les donneurs de sperme pour un couple aujourd'hui, un couple hétérosexuel. Pour obtenir un don de sperme pour un couple hétérosexuel aujourd'hui, c'est le seul quel cas on a à faire. Il n'y a pas de délai d'attente, etc. Par contre, pour les ovules, oui, beaucoup. Parce qu'il y a très très peu de dons d'ovocytes en France. On peut le comprendre, c'est très difficile, un don de sperme. Vous voyez très bien comment on peut le faire. Hein, ça fait pas de mal à personne. Don d'ovocytes, il y a une ponction ovocytaire précédée par une stimulation ovarienne, etc.
C'est plus lourd médicalement.
Ah, c'est beaucoup plus lourd. C'est au bloc opératoire, c'est chirurgical, etc. Donc je comprends bien que les femmes ne sautent pas de joie éventuellement à l'idée d'avoir une ponction, une stimulation, une ponction.
Sur les chiffres.
Alors, nous avons des chiffres qui sont des chiffres de nos collègues belges. Nos collègues belges disent que dans leur situation, il y a à peu près un tiers des demandes qui sont pour les couples hétérosexuels infertiles, et que les deux tiers qui rentrent sont des femmes célibataires ou des femmes lesbiennes. Ces chiffres sont à prendre un petit peu avec recul parce qu'il y a énormément de Français qui vont chez eux.
Ouais, parce que c'est légal en Belgique, on va le rappeler. Ça n'est pas en France. C'est légal en Belgique. C'est un pays voisin où on peut aller facilement pour.
Exactement.
Pour ce genre de
donc, on peut penser que, assez logiquement, ça doublerait la demande. Probablement. Mais, ce que nous pouvons penser également, parce qu'aujourd'hui, par exemple, nous avons les donneurs dont nous avons besoin à Cochin, on peut penser que des couples lesbiens pourraient très bien susciter des dons chez des amis gays ou pas gays, au demeurant d'ailleurs, mais que ces personnes-là...
Ça pourrait encourager le don de sperme qui pourrait compenser un afflux. Voilà. On tourne autour depuis tout à l'heure. Pardon ?
Une solidarité, oui, qui pourrait se mettre en place, et un recrutement élargi.
Oui.
On tourne autour depuis tout à l'heure, donc je propose qu'on écoute les opposants les plus virulents à l'ouverture de la PMA à toutes. La Manif pour tous, mouvement né au moment de la légalisation du mariage homosexuel en 2013, on l'évoquait tout à l'heure. Écoutez la présidente de la Manif pour tous, Ludovine de la Rochère, c'était sur RTL.
Et je crois que ce qui est heurtant, c'est finalement qu'on pourrait utiliser la technique, en l'occurrence une technique médicale, pour faire des enfants délibérément privés de père, qui naîtraient de père inconnu, qui seraient de filiation inconnue. Et c'est ça qui est choquant. Les familles monoparentales, d'abord, dans l'immense majorité des cas, les enfants connaissent leur père. Qu'ils vivent ou pas avec lui, ils le connaissent, d'une part. Et d'autre part, ce sont les aléas, les accidents de la vie, etc. Là, on envisage volontairement... Je pense que c'est d'une violence immense. Vous savez, la PMA sans père, c'est déjà le business de la procréation. La PMA sans père, en elle-même, est un saut anthropologique immense et ouvre une boîte de Pandore et ce business.
Laurence Brunet, que vous inspirent ces arguments ?
Ça me paraît... Alors, je vais répondre encore en juriste, parce que c'est finalement la compétence que
c'est pour là
qui
vous
est la
êtes
mienne.
Là.
Je voudrais quand même rappeler une chose, c'est que quand la loi de 2013 a été votée, les opposants, la droite, et en particulier une droite plutôt réactionnaire, a saisi le Conseil constitutionnel pour dire que cette loi allait justement priver un enfant d'un père. Et alors, c'est très intéressant de rappeler ce que le Conseil constitutionnel a dit. Donc, le Conseil constitutionnel est celui qui vérifie qu'une loi est conforme à nos principes les plus fondamentaux qui sont dans la Constitution. Il a dit qu'il n'y avait jamais eu, dans la tradition et dans l'histoire du droit, un principe de bilinéarité hétérosexuelle. Ce n'est pas un droit, en tout cas pas en France, et je pense pas dans les autres pays, qu'un enfant puisse avoir un père et une mère. Voilà. Et il y a des milliers d'exemples. Le droit français a pendant des années interdit à un enfant né en dehors du mariage de rechercher en justice son père. Donc il y avait des tas d'enfants qui n'avaient qu'une mère.
Donc c'était la démarche inverse.
Voilà, c'était la démarche inverse. Alors bien sûr, les choses ont progressé. Il est possible aujourd'hui de faire le contraire. Mais voilà, le droit français a admis l'accouchement sous X, donc la possibilité qu'un enfant ait pas de parents, en tout cas pas de parents biologiques. Il n'est pas possible de faire des expertises post-mortem en France, donc il est possible qu'un enfant n'ait pas de père. Donc voilà, cette idée qui aurait une espèce de données anthropologiques qui voudrait qu'un enfant est nécessairement, pour être heureux, doit nécessairement avoir un père et une mère, est totalement faux, et c'est le Conseil constitutionnel qui nous l'a confirmé.
Il nous reste une poignée de secondes. Vous croyez que cette loi va passer finalement ?
J'espère. J'espère, vous voyez bien que ces groupes rétrogrades là qui nous on voudrait pouvoir soigner l'embryon par exemple, on voudrait faire de l'expérimentation scientifique, médicale, sincère, de manière à sauver les enfants qui meurent dans le ventre de leur mère. Les fausses couches, c'est l'enfant qui meurt. Quand nous voulons faire de la recherche sur l'embryon, c'est pour soigner les bébés dans le ventre de leur maman. Donc, c'est le sens de l'histoire, c'est le sens de la connaissance, et j'espère bien que ça passera, bien sûr.
Merci beaucoup à tous les deux, Laurence Brunet, Jean-Philippe Wolf, d'avoir été avec nous. Laurence Brunet, je rappelle que vous êtes juriste, spécialiste en droit de la famille et en bioéthique, également chercheur à Paris 1. Jean-Philippe Wolf, chef du service de la biologie de la reproduction, responsable assistance médicale à la procréation au sein de l'hôpital Cochin à Paris. Merci également à Eleonora Farad pour son aide précieuse dans la préparation de cette émission. À la réalisation, il y avait ce soir Fabrice Viollet. Merci aussi beaucoup à lui.